le magazine des Nations Unies.
Processus électoral en RDC, la MONUSCO s'en tient au délai constitutionnel. C'est en réaction au balbutiement d'un processus qui a du mal à décoller et face aux contraintes soulevées par la CENI. Les détails, dans un instant, avec le porte-parole ad intérim de la mission onusienne. Et puis plus de 2 millions de femmes dans le monde touchées par la fistule obstétricale. En RDC, environ 40 000 femmes en souffrent et le mal prend de l'ampleur. C'est quoi une fistule? En marge d'une campagne lancée contre cette maladie par le ministère de la Santé publique et UNFPA, le magazine des Nations Unies reçoit l'ancien doyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, le professeur Punga. Enfin, des casquets bleus tanzaniens accusés d'abus sexuels dans la zone de Beni au Nord Kivu. La MONUSCO affirme mener des enquêtes et appliquer avec toute la rigueur des sanctions contre les présumés auteurs des abus. Notre invité dans ce magazine pour en parler, le porte-parole de la mission onusienne, Félix Prosper Bass.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bon dimanche chez vous. Nous le disions, la MONUSCO s'en tient au respect du délai constitutionnel et les acteurs politiques congolais sont appelés à s'y conformer. Déclaration de Charles-Antoine Bambara, porte-parole ad intérim et directeur de l'information de la MONUSCO. Il répondait ainsi à une question d'un journaliste à la conférence hebdomadaire des Nations Unies, c'était le mercredi dernier, concernant justement les balbutiements du processus électoral et les contraintes que la CENI évoque pour justifier l'organisation éventuelle des scrutins au-delà des échéances constitutionnelle. Je vous invite à écouter Charles-Antoine Bambara au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
La nécessité du dialogue a été posée sur la table par les autorités congolaises avec un certain nombre d'acteurs politiques sur le terrain et je crois que nous engageons dans cela effectivement les Nations Unies par la voix de Ban Ki-moon ont soutenu donc l'organisation de ce dialogue pour qu'on se mette d'accord un peu sur la feuille de route politique. Peut-être que cette feuille de route politique va essayer de déterminer qu'est-ce qu'on fera, dans quel délai on le fera, etc. Mais pour l'instant, au niveau des Nations Unies, au niveau de cette résolution, il est clair que le processus électoral doit tenir compte des délais constitutionnels. Cela est clair. Ça a été réitéré par Ban Ki-moon une fois de plus lors de son passage ici. Je pense que c'est important que les acteurs politiques puissent agir en se disant que ce délai constitutionnel doit être respecté.
L'autre actualité cette semaine, c'est la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année. En 2016, un accent est mis sur le diabète. Une maladie qui, selon l'OMS, sera sous peu la 7e cause de mortalité dans le monde. Le magazine des Nations Unies fait le point sur l'état de lieu du diabète en RDC et bien évidemment dans le monde. Et c'est avec Honoré Missenga Kalala.
Selon les chiffres du ministère de la Santé de 2013, le taux de prévalence du diabète en RDC oscille entre 7 et 10% pour les adultes, il est de 0,5% pour les enfants. En 2009, 800 000 diabétiques avaient été répertoriés en RDC, dont environ 200 000 à Kinshasa. Au niveau mondial, la maladie touche environ 350 millions de personnes selon l'OMS, un chiffre qui pourrait doubler dans 20 ans. En 2012, 5 millions de décès ont eu pour cause directe le diabète et en 2030, cette maladie sera la 7e cause de décès dans le monde. Autre fait alarmant, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, de plus en plus, les enfants et les jeunes sont aussi touchés par la maladie dans tous les pays. Autant des raisons pour lesquelles la Journée mondiale de la santé de cette année est consacrée au diabète. Objectif, sensibiliser les pouvoirs publics, les autorités sanitaires et les populations à prévenir cette maladie.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disons dans le sommaire, environ 40 000 femmes souffrent de fistules obstétricales en République démocratique du Congo, parmi plus de 2 millions de femmes attaquées par cette maladie dans le monde. Pour s'attaquer à ce mal, le ministère de la Santé publique organise depuis le 26 mars jusqu'au 15 avril prochain une campagne de réparation des fistules obstétricales dans les villes de Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est impliqué dans cette campagne. Médecin spécialiste en chirurgie générale, chef de service d'urologie aux cliniques universitaires de Kinshasa et ancien doyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, le professeur Punga Maole est l'un des experts nationaux engagés dans la lutte contre les fistules obstétricales. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala dans cet entretien. Suivez.
Professeur Punga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Professeur, le Fonds des Nations Unies pour la population a lancé depuis le 26 mars jusqu'au 15 avril une campagne de réparation des fistules obstétricales. Votre expertise est également sollicitée dans cette campagne. Est-ce que vous pouvez définir pour les communs des mortels, les auditeurs, qu'est-ce qu'une fistule ?
Une fistule, c'est une maladie qui se caractérise par une communication anormale entre deux organes cavitaires, des organes creux ou une surface. Alors dans les cas d'espèce, ce sont des fistules du haut génital. Pour être très simple, ces fistules font communiquer les voies urinaires et les voies génitales de la femme. En étant un peu plus précis, je voudrais bien dire que c'est une des formes la plus fréquente, fait communiquer la vessie et le vagin. Vous savez que c'est la vessie qui reçoit les urines continuellement. Alors en ce moment-là, nous allons parler des fistules vésico-vaginales. C'est la forme la plus fréquente des fistules dont il est question, donc pour lesquelles nous devons faire des réparations. Ce que je dis est très simple, mais c'est quelque chose d'un peu plus étendu et d'un peu plus complexe, dû à la complexité des voies urinaires et au rapport à la proximité avec d'autres organes. C'est-à-dire que les voies urinaires qui viennent directement du rein et qui vont à la vessie peuvent communiquer directement avec le vagin, d'une part. D'autre part, en dessous de la vessie, nous avons un canal qui s'appelle l'urètre qui fait communiquer la vessie au dehors. Et c'est par ce canal-là que nous urinons, hommes et femmes. Ce canal-là aussi peut être directement en communication avec le vagin. Mais ce que nous ne devons pas oublier, derrière le vagin se trouve le rectum, cette ampoule-là qui est un peu dilatée immédiatement avant l'anus, qui peut être également en communication avec le vagin. Alors dans la compréhension de l'OMS, donc tout cela, pour les cas d'espèce, ce que nous appelons la fistule obstétricale, englobe toutes ces entités anatomiques que je viens de décrire.
Pour ce cas, une femme souffre de cette fistule, quels sont les signes visibles?
Avant d'aller aux manifestations de cette maladie, j'aimerais m'arrêter un petit peu sur les causes. La cause la plus fréquente, ce sont les accouchements difficiles. Les accouchements qui, d'une part, ne sont pas encadrés par les services donc des soins. Les femmes peuvent accoucher en milieu isolé. L'encadrement peut concerner également tout ce qui précède l'accouchement. Pas de consultation prénatale et donc on ne peut pas donc imaginer les difficultés qui peuvent accompagner l'accouchement, donc l'apparition de ces fistules dues le plus souvent à une disproportion entre la tête du fœtus de l'enfant qui descend et le bassin de la femme, sachant que beaucoup de femmes qui ont cette maladie sont des femmes qui ont des petits bassins et qui donc accouchent difficilement. Donc les parties urinaires et les parties génitales, le vagin, sont comprimées. Au bout d'un certain temps, la compression entraîne une destruction des tissus.
Donc une déchirure?
Bon, une déchirure dans une certaine mesure, mais c'est un écrasement. Et quand les tissus sont écrasés, ils s'éliminent spontanément. Et puis la communication s'établit de cette manière-là. Alors pour revenir à la question, comment se manifeste cette maladie? Cette maladie, dans la forme la plus fréquente, dans la forme qui est la communication entre la vessie et le vagin, la maladie va se caractériser par les pertes urinaires involontaires par le vagin. Les patientes n'éprouvent plus les besoins d'uriner et tout le temps les urines vont passer donc par le vagin, ce qui va incommoder la patiente et l'entourage. Donc les dames doivent porter des couches, ce qui entraîne des blessures dans les parties génitales et sur la peau qui avoisine les parties génitales.
À part l'urine, il n'y a pas d'autres matières qui passent par le vagin?
J'ai parlé tout à l'heure des communications entre le rectum et le vagin. Les selles peuvent aussi passer par le vagin lorsque nous avons une communication entre le vagin et le rectum.
Alors, professeur, on peut comprendre que les personnes ciblées par la fistule obstétricale, ce sont les femmes enceintes.
Bon, certainement, ce sont des femmes qui ont été enceintes, qui sont exposées à cette maladie, mais la grossesse est un phénomène qui est tout à fait naturel. Elle devrait se dérouler naturellement, et d'ailleurs les gynécologues peuvent le confirmer, c'est physiologique, c'est naturel. Mais dès lors qu'il y a des problèmes, notamment des problèmes anatomiques que j'ai évoqués tout à l'heure, le petit bassin des femmes, alors va surgir donc la difficulté d'accoucher, donc de sortir l'enfant. Et quand cet accouchement est impossible naturellement, il y a cet écrasement dont j'ai parlé et les fistules apparaissent. Mais ça, c'est une cause.
Il y a d'autres causes.
Il y a certainement d'autres causes. Je voudrais ici attirer notre attention à nous tous. C'est sur un type un peu particulier des fistules. Ce sont des fistules par violence faite à la femme. Donc les criminels introduisent toutes sortes d'objets dans les voies génitales de la femme, donc il blesse à la fois le rectum en arrière et puis la vessie en avant. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même, il y en a quand même. Donc nous déplorons ces faits dus à cette violence qui est basée sur les genres, qui est utilisé hein, comme arme dans les zones de conflit ou dans les zones immédiatement donc en période post-conflit. Mais il y a aussi les opérations gynécologiques qui peuvent être à l'origine de cette maladie.
Donc des opérations mal faites?
Bon, pas forcément mal faites. Je suis formateur, hein. Je suis un ancien doyen de notre faculté. Je ne peux pas accuser mes anciens élèves. Les difficultés arrivent, les complications existent. Hein. C'est décrit dans tous les livres, quand on opère, il y a une part de ce qui est parfaitement bien fait, qui a des suites et qui sont simples, mais il y a aussi des complications qui existent, et ces complications surviennent même entre les mains les plus entraînées. Donc nous disons pour l'instant que ce sont des complications de la chirurgie du petit bassin, chirurgie le plus souvent ici gynécologique. Parmi ces interventions, il y a aussi la césarienne, hein. Mais c'est quand même un peu discutable parce que bon, c'est une césarienne qui viendrait après un long travail d'accouchement. Et là, la fissure peut être due au long travail et pas à la césarienne qui vient délivrer la femme.
Oui. Vous avez parlé du bassin, du petit bassin. Donc, on peut comprendre que les filles qui sont mariées précocement, avant l'âge, sont vraiment exposées à cette maladie.
C'est un facteur, hein, Le mariage précoce, hein, des personnes qui n'ont pas fini leur développement, bon, on les soumet au mariage. Donc, c'est un facteur qui est reconnu par tout le monde. Hein.
Alors, professeur, comment se traite finalement la fistule? On parle plus de la réparation. Pourquoi le mot réparation?
Bon, la réparation, c'est dans le jargon hein, de chirurgie. Il y a une chirurgie qui est reconstructive ou chirurgie réparatrice, ça existe. Ce n'est pas particulier aux fistules, hein. On fait la chirurgie réparatrice pour autre chose. Donc ça, c'est dans le jargon, c'est dans le vocabulaire du métier. On utilise ça. Alors, on répare quoi? On reconstruit plutôt quoi? On reconstruit l'anatomie pour lui redonner sa configuration naturelle. Alors ici, il y a une communication qui est anormale entre les voies urinaires et les voies génitales de la femme. Qu'est-ce que nous faisons? Le traitement est forcément et nécessairement opératoire. Donc nous opérons pour fermer cette communication anormale et au bout d'un temps... Donc les patients retrouvent donc cette anatomie normale et la fonction normale.
Professeur Ponga, merci d'avoir répondu à l'appel de Radio Capi.
Merci beaucoup.
Nous allons bref à présent à un nouveau représentant de l'OMS en RDC, Dr Yakwide Alangar, a présenté le 1er avril dernier ses lettres de cabinet. Ses lettres de cabinet au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda. Avant la RDC, Dr Alangar, d'origine tchadienne, était en Côte d'Ivoire où il a exercé les mêmes fonctions depuis 2012. Le chef de la diplomatie congolaise a souhaité à son hôte une fructueuse carrière et l'a rassuré de sa disponibilité au raffermissement des bonnes relations qui existent entre la RDC et l'OMS. La RDC devrait être représentée au plus haut niveau possible au sommet humanitaire mondial de Turquie. Vœu de Mamadou Diallo, coordonnateur de l'action humanitaire en République démocratique du Congo, émis le 5 avril dernier au cours de la deuxième réunion du cadre national de concertation humanitaire, CNCH. C'est à Kinshasa. Le CNCH est un forum mis en place pour harmoniser les points de vue du gouvernement congolais, mais également de partenaires internationaux par rapport justement à l'action humanitaire en RDC. À moins de 2 mois du prochain sommet humanitaire, la deuxième réunion du CNCH a notamment fait le point de la problématique des déplacés dans l'est de la RDC, estimée à 1,5 million. Enfin, restons dans l'est du pays où le chef de UNPOL, la police de la MONUSCO, a effectué la semaine dernière une visite de travail. Messieurs Awale Aboudanassir s'est rendu notamment à Beni au Nord Kivu et à Bunia dans la nouvelle province de l'Ituri. Pendant son séjour, le commandant de UNPOL s'est entretenu avec les autorités congolaises locales et a rendu visite aux unités de la MONUSCO et de la police nationale congolaise PNC. Il a également participé à des patrouilles nocturnes avec des unités constituées.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La MONUSCO enquête sur des cas d'abus et d'exploitation sexuelle commis par des casquets bleus tanzaniens à Kavivi. Kavivi, c'est un village situé près de Beni au Nord Kivu, selon un communiqué publié la semaine dernière. Le magazine des Nations Unies a approché Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO, pour plus d'éclairage sur cette enquête, les présumés auteurs ainsi que sur d'éventuelles sanctions. Le porte-parole Bass répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur le porte-parole, bonjour.
Oui, bonjour.
Dans un communiqué daté du 1er avril, la MONUSCO annonce des allégations d'atteinte et d'exploitation sexuelle, notamment sur le mineur, près de Beni. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement, monsieur porte-parole?
Oui, vous avez parfaitement raison d'indiquer ce cas d'abus et d'exploitation sexuelle qui a été enregistré dans la région de Beni. Et effectivement, nous avons été saisis de manière officielle de ces allégations et immédiatement, nous avons dépêché sur le terrain une équipe pluridisciplinaire pour mener une enquête sur ces allégations de violence sexuelle impliquant quelques éléments de la force de la MONUSCO. Ces enquêtes sont toujours en cours, mais les résultats préliminaires indiquent que 11 filles ont été victimes de violences ou d'abus sexuels perpétrés par des casques bleus de la force de la MONUSCO.
Il y a même une demande de paternité.
Oui, effectivement, nous avons affaire à 11 cas impliquant des casques bleus du contingent tanzanien. Ce sont 11 filles qui sont en grossesse de ces casques bleus du contingent tanzanien. Évidemment, seuls 4 cas concernent actuellement les investigations qui sont en cours. Les 7 cas concernent le contingent précédent qui était là et qui est reparti au niveau de la Tanzanie. Mais vous savez, au niveau de la MONUSCO, nous prenons très au sérieux ces allégations d'abus et d'exploitation sexuelle et nous mettrons tout en œuvre pour que la lumière puisse rejaillir.
Et comment vous allez faire pour ceux qui sont rentrés en Tanzanie? Vous allez mener les enquêtes comment?
Concernant ce contingent qui est déjà rentré, nous avons de manière très officielle saisi l'ambassadeur de la Tanzanie, aussi bien en République démocratique du Congo qu'au niveau de New York, ça veut dire la mission permanente de la Tanzanie au niveau du siège à New York aussi a été saisi, ainsi que les autorités congolaises ici en RDC ont été saisies de ces cas d'allégation. Mais je voulais tout simplement insister que la MONUSCO mettra tout en œuvre pour que ces enquêtes soient diligentées, parce que, comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies a bien mis en place un système qui permette une politique de tolérance zéro, et donc impunité zéro. Donc tous les cas qui seront avérés feront l'objet de sanctions d'une extrême rigueur, car vous savez, le travail de tous les casques bleus à travers le monde ne peut pas être détruit par des comportements odieux de certains de nos camarades qui sont là déployés, qui au lieu de protéger les populations civiles, les font subir les pires souffrances, comme vous pouvez le constater.
Oui, vous parlez de la rigueur, mais pourquoi avoir annoncé ces allégations aujourd'hui alors que la MONUSCO a été saisie depuis le 23 mars dernier?
Il n'y a pas eu de retard, parce que sitôt que nous avons été informés, ce sont des allégations a priori. Nous avons donc immédiatement détaché une équipe pluridisciplinaire qui était sous la houlette ou sous l'autorité de notre unité conduite et discipline. Et au sein de cette équipe, toutes les composantes étaient représentées, aussi bien la police des Nations Unies, la police militaire, la section protection de l'enfant, la section droits de l'homme, la section genre, et toute cette équipe a été déployée. Et aujourd'hui, nous avons aussi saisi l'UNICEF pour que l'UNICEF soit mise à contribution, car nous avons une équipe médicale qui s'occupe aussi de l'assistance psychosociale de toutes ces victimes-là, afin que nous puissions prendre ces cas en compte.
Oui, vous l'avez dit vous-même, monsieur le porte-parole, la MONUSCO enquête sur des allégations qui concernent ses propres casques bleus, bien entendu. Pourquoi ne pas avoir des enquêteurs indépendants pour des résultats plus impartiaux et plus crédibles?
Mais vous savez, notre crédibilité n'est pas en jeu. Nous avons toutes les structures nécessaires à une organisation pour pouvoir, de manière transparente, de manière diligente, de manière honnête et juste, pouvoir mener ces enquêtes-là. Je vous ai expliqué, je vous ai donné la composition de cette équipe pluridisciplinaire où toutes les sections et toutes les compétences sont représentées. Évidemment, nous allons jusqu'au bout. Mais vous savez, nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les autorités congolaises, car les victimes sont congolaises. Et donc, de part et d'autre, nous nous appuyons, nous échangeons nos instruments de travail et d'enquête afin d'arriver à une réalité des faits qui permettent de mener des actions conséquentes contre les auteurs présumés jamais de ces crimes que nous condamnons avec la dernière fermeté.
Ce n'est pas la première fois que ces allégations sont portées au casque bleu de la MONUSCO. Il y a quelques années, on a parlé des casques bleus tunisiens ou même marocains. Aujourd'hui, on parle des casques bleus tanzaniens. Certains pensent même qu'il y a un déficit dans les mécanismes de prévention et de sensibilisation contre ces abus au sein de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le porte-parole?
Je pense tout simplement que ces accusations sont injustes parce qu'au sein de la MONUSCO, d'abord, avant que les contingents ne soient déployés sur le terrain, une formation leur est donnée.
Une formation qui dure combien de temps?
Une formation qui se passe au niveau des pays contributeurs de troupes qui doivent projeter leurs éléments sur le terrain. Donc la MONUSCO ou les Nations Unies de manière très générale veillent à ce que une formation pré-déploiement soit effectivement donnée à ces contingents-là pour amoindrir ou en tout cas réduire à néant les possibilités ou les cas éventuels d'abus sexuels qui pourraient être observés. Une fois que le contingent est déployé sur le terrain, ils vont à travers ce qu'on appelle un induction training.
C'est-à-dire?
Un induction training, c'est-à-dire que tous les éléments déployés dans une mission subissent une formation où toutes les sections viennent d'abord non seulement leur expliquer quelles sont leurs activités au sein de la mission, mais aussi quels sont les comportements à observer pour la mise en œuvre de notre mandat. En plus de cette formation, une fois qu'ils arrivent sur le terrain de déploiement, il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui sont régulières, faites aussi bien par la structure militaire de commandement, mais aussi par les équipes spécialisées, notamment l'unité SIDA, notamment l'unité de lutte contre les violences sexuelles, notamment l'unité de conduite et de discipline de la MONUSCO pour que ces casques bleus puissent avoir un comportement honorable sur le terrain.
Pour terminer, quelles sanctions mériteraient les présumés auteurs de ces abus s'ils sont avérés?
D'abord, il faudra noter que pour nous, un seul cas est un cas de trop et que chaque allégation devra faire l'objet d'enquêtes diligentes, approfondies et transparentes et les auteurs traduits en justice. Ceci pour marquer notre détermination à lutter réellement contre l'exploitation et les violences sexuelles. Et donc, nous nous engageons à prendre des mesures beaucoup plus énergiques.
Concrètement, c'est quoi? Quelles mesures vous pouvez prendre pour dissuader ceux qui commettent ces abus?
D'abord, il faudra comprendre que toutes les mesures qui sont prises sont destinées d'abord à apporter un soutien aux victimes qui doivent être une priorité. Deuxièmement, une fois que les faits sont avérés, ces auteurs présumés sont traduits en justice et condamnés. Mais mieux, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a pris une série de 40 initiatives tendant à renforcer justement la lutte contre ces abus, ces crimes odieux que nous observons et qui sont devenus monnaie courante au sein du système des Nations Unies, particulièrement dans les opérations de maintien de la paix. Et parmi ces initiatives, il y aura aussi la prise en charge des victimes. À ce titre, un fonds commun qu'on appelle un trust fund va être créé et qui permettra au pays de cotiser pour que cet argent puisse servir à la prise en charge des victimes.
Félix et Prosper Bassé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Excellente journée à Radio Okapi.
Nous repartons encore une fois à Bounia où UNPOL organise chaque jour des patrouilles diurnes et nocturnes à travers les quartiers de cette ville. Celles de lundi dernier se sont déroulées avec dans le cortège, nous l'avions dit plus haut, la présence du commandant de la police de la MONUSCO, le général Abdounassir Awale. Isaac Remoyope est également présent.
Le cortège des véhicules de la police de MONUSCO est parti lundi d'Iron Point Martyr au quartier Lumumba et puis a sillonné le quartier Bankoko pour chuter au boulevard des Libérations. Ces véhicules de patrouille roulaient à petite vitesse et s'arrêtaient à certains endroits où le chef de la police MONUSCO en RDC s'entretenait avec la population. Le général Abdounassir Awale justifie sa participation dans ces opérations de patrouille pour s'imprégner des réalités de terrain et pour rapprocher la police de la population.
On ne peut pas essayer de gérer des structures aussi importantes que depuis un bureau. Voilà, la réalité du terrain est tout autre. C'est pour ça que je privilégie au maximum de venir sur le terrain, de travailler avec les collègues, de voir dans quelles conditions ils travaillent et surtout de voir les rapports qu'on a avec la population. Le mandat nous demande d'aller vers la population et c'est pour ça qu'on est là ce soir sur le terrain. Il y a quelques incompréhensions qu'on va rectifier très rapidement. Pour nous, toutes les patrouilles devaient être ainsi. Descendre, discuter avec la population, de prendre le temps avec eux, de voir les difficultés et de voir comment on peut régler ces difficultés-là.
Certains habitants ont salué la collaboration de la police avec la population qu'ils considèrent comme une nouvelle approche qui va contribuer contribuer à améliorer la sécurité à Bunia.
Vraiment, on est tellement ravis. Voir quelqu'un d'une grande considération approcher un peuple, donc d'une moindre case, mais avec une plus grande considération, ça me fait vraiment un coup de cœur. Vraiment, c'est un message intérieur que vous m'avez passé. Alors, c'est un message que vous pouvez autant aussi passer aux autorités, du fait qu'ils peuvent approcher la population comme vous avez fait autant. Voilà, la prise de contact, pareil, ça vaut déjà un coup d'échange. Cet échangement vers les nouvelles horizons, la population a besoin de ça, avoir des autorités qui peuvent les approcher.
Signalons que ces opérations de patrouille se font parfois avec la police nationale congolaise.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
La question de ce dimanche porte sur la situation humanitaire des enfants dans les régions perturbées par la guerre en République démocratique du Congo.
Laetitia Mtumba, Michapel Voice TV. Il y a eu beaucoup de mouvements de la population dû à la guerre ces derniers temps au Nord Kivu. Quel est le sort des enfants?
J'invite Sylvestre Docha à la table.
La situation d'instabilité engendrée par l'activisme de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, c'est vrai, crée beaucoup de déplacements de population. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on est à environ 1,5 million de personnes déplacées actuellement à l'est, et dans ce 1 million de personnes, il y a une bonne portion d'enfants. Les enfants sont parmi les cibles considérées comme les plus vulnérables parmi les vulnérables et bénéficient en priorité de la protection de la communauté humanitaire. Il y a un certain nombre d'agences qui sont en première ligne en ce qui concerne la protection des enfants, notamment le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui se préoccupe justement de la protection des enfants, aussi bien dans les sites de déplacement que les enfants qui sont aussi dans les communautés d'accueil.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Nico Kalambay, père d'une fille de 5 ans. J'ai eu une formation de métallurgiste et je suis actuellement animateur et producteur d'émissions à Radio Okapi. Depuis 8 ans maintenant, je produis quotidiennement Total Music, une chronique diffusée dans l'émission Découverte. Je produis également l'émission Roundup, une émission du week-end. Je fais aussi les remplacements à la matinale de la semaine et du week-end. J'ai forgé mes premières armes dans une radio de Mbujimaï nommée KHRT. J'y ai œuvré comme animateur et producteur d'émissions, présentateur des journaux radio et télé. J'ai également occupé des fonctions de rédacteur en chef et directeur des programmes dans ce même média privé que j'ai quitté pour une autre aventure à Kananga où j'ai travaillé à la RTKM, Radio-Télé Kananga Malindi, un autre média privé, avant de me rendre à Chikapa où j'ai travaillé d'abord pour la Radio-Télé Amazon, ensuite pour la RTU. J'ai ensuite travaillé pour la radio-télévision Océan Pacifique de Mbujimaï, avant d'être recruté par la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA, à Kinshasa. RTGA que j'ai quitté 2 ans après pour Radio Okapi. Je passe beaucoup de temps à lire, mais aussi à jouer avec ma fille que j'aime beaucoup. J'écoute en boucle Pascal Lokwakanza. J'écoute aussi Mike Kalambay et Ferigola. En ce qui concerne mon plat préféré, je mange presque tous les jours le foufou. Hein. Je suis un grand mangeur de foufou. J'adore les légumes appelés vite coûté coup. Et j'aime aussi le poisson fumé. Je rêve un jour mettre mon expertise à la disposition des jeunes qui ont une passion pour ce travail en créant un média en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Signature ce mardi 12 avril d'un accord de financement entre le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouvernement des Pays-Bas, un financement de l'ordre de 500 000 euros pour le monitoring et la prévention des violations droits de l'homme, également des libertés fondamentales lors du processus électoral en République démocratique du Congo. déjà la fin du magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. Je suis Tina Salama. Je vous l'ai présenté avec beaucoup de plaisir. Au reportage, Honoré Missenga Kalala. Également, Jean-Pierre Elali Kogo qui a assuré la coordination de ce magazine. Merci à Martin Sedjangwe qui l'a supervisé. Ce magazine a été mis en onde par Paul Badenyama. On se dit à très bientôt, dimanche prochain. Sinon, si vous voulez le réécouter, vous n'avez qu'à aller visiter notre site internet, le www.radiocapi.net. À bientôt. Bon dimanche.